Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec, dans un instant, le journal d'Isabelle Millet. Juste après, on ouvrira, comme tous les soirs, le débat du Club des idées en partenariat ce soir avec le beau hors-série du Point. Les châteaux qui ont fait la France, les châteaux qui vous allez visiter, croiser bien sûr sur la route de vos vacances. Eh bien, ils racontent 5 siècles d'histoire. Vous prenez la parole avec plaisir, bien sûr, au 39-21. Mais d'abord, le Point sur l'info avec vous, Isabelle Millet. Rebonsoir, Isabelle.
Rebonsoir, Thierry.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Comment va se passer la réouverture des discothèques ce soir? Un protocole très strict est mis en place après 16 mois de fermeture totale.
Emmanuel Macron prendra la parole lundi soir à 20h pour évoquer la situation sanitaire de plus en plus préoccupante et insister sur la vaccination, notamment celle des soignants.
Les soignants, mais aussi les jeunes, première cible du variant Delta. Vaccinez-vous, les exhorte la ministre de l'Enseignement supérieur, pour une rentrée sereine.
Inquiétude en Afghanistan, les Américains n'ont pas encore totalement quitté le pays, que déjà les talibans reprennent le contrôle du pays.
20 ans de prison pour Laurent Dejean, le meurtrier de Patricia Bouchon à Boulogne en 2011. C'est la même peine qu'en première instance.
Mark Cavendish, aussi fort qu'Eddy Merckx, le Britannique remporte la 13e étape du Tour de France.
Et puis il est l'un des artisans du renouveau de la Squadra Azzurra. Gianluca Vialli a vaincu un terrible cancer et il compte bien voir son équipe dimanche remporter l'Euro contre l'Angleterre.
La tendance météo, Marlène Duré.
Plutôt perturbé au nord, avec un passage pluvieux qui va se renforcer à mesure que les pluies se décaleront vers l'est. Elles pourront prendre d'ailleurs un caractère orageux. Toujours du beau temps au sud, avec moins de vent en Méditerranée et des températures contrastées.
A tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ceux d'entre vous qui sont sur la route des départs en ce moment se posent sans doute la question, qu'allons-nous vraiment pouvoir faire cet été? La situation sanitaire est évolutive. Le variant Delta inquiète beaucoup. Il sera majoritaire probablement ce week-end, a dit ce matin le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Et Emmanuel Macron a d'ailleurs prévu de prendre la parole lundi depuis l'Élysée. Le président pourrait annoncer de nouvelles mesures de restriction, notamment aux frontières, et c'est dans ce contexte compliqué que les boîtes de nuit ont le droit de rouvrir ce soir enfin, après 16 mois de fermeture totale.
Oui, même si 3 sur 4 devraient rester fermées, elles craignent en effet de ne pas pouvoir s'en sortir avec les mesures sanitaires. Yasmina Katou, vous avez trouvé, vous, une discothèque qui, elle, a choisi d'ouvrir. C'est à Paris, ça s'appelle Madame Arthur. Alors expliquez-nous, Yasmina, comment ça se passe si on veut aller danser ce soir?
Alors déjà, la sortie sur un coup de tête décidée à 23h, il faut oublier. Avant de rejoindre la piste de danse, vous aurez besoin d'un test PCR ou antigénique. Ce test doit être réalisé 48 heures avant maximum. Si vous êtes du genre tête en l'air, un antigénique avant la fermeture des pharmacies, comptez 15 minutes pour avoir les résultats. La démarche est simplifiée si vous avez reçu vos 2 doses de vaccin depuis au moins 14 jours. Si vous êtes guéri du Covid, une preuve de contamination qui date de moins de 6 mois vous ouvre aussi l'accès au club. Pensez à arriver tôt, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Une jauge à 75% est imposée aux boîtes de nuit. En revanche, vous n'aurez pas besoin de masque pour danser sous la boule à facettes. Après toutes ces séries d'obstacles inédits imposés par le Covid, on revient aux fondamentaux. Il faudra passer l'épreuve du videur et là, un test négatif ne vous sera pas d'une grande aide.
Et l'épreuve du slow aussi. Merci Yasmina Katou et bonne soirée à tous ceux qui ont prévu de passer la nuit sur le dance floor. Aujourd'hui à Madrid, le ministre français des Affaires étrangères a exhorté ses compatriotes souhaitant passer leurs vacances en Espagne ou au Portugal à se faire vacciner. Pour être vacancier, a-t-il dit, il faut être vacciné.
Et notez que demain matin à 8h15, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet sera l'invité de la matinale week-end, l'invité de Pierre de Villeneuve. Hier, Jean Castex évoquait la possibilité d'une troisième dose pour protéger les personnes les plus fragiles. Aujourd'hui, c'est le laboratoire Pfizer-BioNTech qui préconise cette troisième dose pour rendre son vaccin plus efficace.
Oui, une vaccination importante en particulier, on le sait, chez les jeunes. La ministre de l'Enseignement supérieur a d'ailleurs tenu à adresser un message aujourd'hui aux étudiants.
Alors ce que l'on sait, c'est ce que nous donnent les études de Santé publique France. Sur la tranche d'âge des 18-24 ans, la sous-population des étudiants, on est à 71% de jeunes qui ont commencé leur processus vaccinal ou qui indiquent qu'ils vont le commencer dans les prochains jours. À la rentrée, on installera aussi des barnums pour permettre à ces étudiants de terminer cette vaccination. Si à la rentrée, nous voyons que l'épidémie repart, le fait qu'ils soient vaccinés nous permettra de maintenir du 100% présentiel dans les établissements. S'ils ne sont pas suffisamment vaccinés, à ce moment-là, on prendra les mesures nécessaires. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelles sont ces mesures. Ce n'est pas une menace, c'est juste la réalité.
Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, au micro Europe 1 de Virginie Riva.
La lutte contre le terrorisme au menu du sommet entre la France et le G5 Sahel. Aujourd'hui, sommet qui se tenait un mois après l'annonce de la fin de l'opération Barkhane. Emmanuel Macron a indiqué que la France commencerait d'ici la fin de l'année à retirer ses forces déployées les plus au nord du Mali et concentrera ses efforts vers le sud où les groupes djihadistes poursuivent leur dissémination.
L'inquiétude grandit en Afghanistan où depuis le retrait des Américains qui est pratiquement terminé, bien les talibans étendent leur emprise.
Et Jean-Jacques Herry, ils affirment aujourd'hui qu'ils contrôlent même 85% du pays.
Oui, dernière preuve de cette avancée, les forces talibanes ont expliqué s'être emparées de deux postes frontières aujourd'hui dans l'ouest du pays, l'un avec le Turkménistan et plus tôt dans la journée, ils disaient avoir pris possession d'un autre, cette fois-ci à la frontière iranienne, une prise confirmée par les autorités afghanes. Dans le pays, les combats entre l'armée régulière et les insurgés font rage depuis début mai et avec le retrait américain en cours, retrait qui devrait s'achever le 31 août prochain, eh bien, les forces de Kaboul ne disposent plus de soutien aérien inexorablement, eh bien, elles perdent du terrain. Désormais, les talibans tiennent un arc de territoire très important qui part de l'ouest à la frontière iranienne jusqu'à l'autre bout du pays, vers le nord-est où se trouve la frontière chinoise. Pour l'instant, la capitale Kaboul est très protégée, elle est épargnée par les combats. Habib Chinwari vit dans la capitale, sa famille a déjà fui en Turquie et lui observe, désemparé, la situation se dégrader.
La population civile est très inquiète, elle a peur. Dans la province d'Herat, c'est la guerre en ce moment. Les talibans revendiquent d'avoir battu les Américains. Ils ont beaucoup de soutien de la part du Pakistan, par exemple, ou d'autres pays voisins. Les talibans sont de plus en plus forts. On n'a aucun espoir. Si les Américains n'y sont pas arrivés, alors que voulez-vous que notre gouvernement fasse ?
Après s'être cantonné aux zones rurales pour la première fois il y a deux jours, les talibans se sont emparés d'une capitale provinciale, signe que l'on est entré dans une nouvelle phase des combats, une nouvelle guerre civile, comme si l'histoire se répétait.
Merci beaucoup Jean-Jacques Herry.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1, comme en première instance, le meurtrier de Patricia Bouchon condamné à 20 ans de prison.
Et puis Marc Cavendish, aussi fort qu'Eddy Merckx.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
19h08, la suite du journal d'Isabelle Mille sur Europe 1 et le verdict dans le procès du meurtre de Patricia Bouchon près de Toulouse.
La joggeuse de Boulogne avait été sauvagement agressée en février 2011. Son meurtrier présumé avait été condamné en première instance à 20 ans. Et c'est une peine similaire qu'ont prononcé tout à l'heure les jurés de la cour d'assises d'appel d'Albi, Benjamin Péter.
Oui, 20 ans assortis de 20 autres années de suivi socio-judiciaire dès sa sortie de prison. C'est même plus que ce qu'avait requis l'avocat général. À l'énoncé du verdict, les parties civiles se prennent dans les bras. Pour Carline, la fille de Patricia, c'est la fin de 10 ans de calvaire.
Justice est rendue. Ça y est, maman, on va pouvoir s'envoler sereinement. Nous aussi, on va pouvoir vivre sereinement. Le plus important pour nous, c'était qu'il soit suivi médicalement. Et là, on ne pouvait pas attendre mieux que 20 ans de suivi médical après sa sortie de prison. Ça ne recommencera pas. C'est ce qu'on voulait. Pour ma maman, c'est fini.
Laurent Desjean, lui, semble sonné. Il fait non de la tête avant de s'effondrer sur sa chaise. Pour son avocat, maître Karim Chebani, qui avait demandé au juré de l'acquitter parce que la loi vous le commande et vous y oblige. À défaut de preuves, on a créé un coupable.
La justice a peur du vide. Je pense que la société, en général, a peur du vide et qu'on n'accepte pas l'idée qu'il n'y ait pas d'explication rationnelle. Et c'est pour ça que je pense qu'en désespoir de cause, on a fabriqué ce coupable. Quelle que soit la décision qui a été rendue aujourd'hui, je n'ai pas changé d'avis et j'estime que c'est inadmissible.
Et il envisage de conseiller à son client de se pourvoir en cassation. Il dispose de 5 jours pour prendre cette décision.
Benjamin Péter qui a suivi ce procès pour Europe 1 à Albi.
Le Tour de France, Isabelle, c'était la 13e étape aujourd'hui avec une victoire à Carcassonne de Marc Cavendish.
34e victoire d'étape pour le Britannique qui égale le record d'Eddy Merckx. Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, est aussi un grand ami d'Eddy Merckx. Il salue la performance de Cavendish.
34 victoires d'étape à 13 ans d'intervalle. C'est un sprinter phénoménal qui a tout connu, des très hauts et des très bas, qui avait sombré dans une dépression. Cavendish, quand il commence à gagner, il gagne. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il ne gagne pas forcément les premiers sprints, mais quand il se met à gagner, il les gagne tous. Ça n'est évidemment pas le plus grand coureur de l'histoire du Tour de France, c'est Eddy Merckx. Mais lui, c'est sans aucun doute le plus grand sprinter de l'histoire du Tour, le plus grand sprinter de l'histoire du cyclisme. Et puis c'est quelqu'un qui aime viscéralement le Tour de France. Le Tour de France, pour lui, représente tout. Il a été champion du monde, il a gagné Milan-San Remo. Le Tour de France, c'est son histoire. Je ne sais pas s'il parle d'un 35 éventuellement. En tout cas, forcément, il va essayer. Oui, il a gagné 4 fois à Paris sur les Champs-Élysées. Je pense que ce simple objectif-là va faire qu'évidemment, il va se battre jusqu'au bout pour ne pas être éliminé dans les Pyrénées, ce qu'il a fait à Tignes d'ailleurs il y a quelques jours.
Christian Prudhomme, le patron du Tour de France au micro européen de Marguerite Lefebvre.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy, l'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
J-2 avant la finale de l'Euro, l'Italie face à l'Angleterre.
L'Italie moribonde il y a encore quelques années et qui connaît une véritable résurrection.
Artisan de cette résurrection, le sélectionneur Roberto Mancini, mais aussi son adjoint Gianluca Vialli, des amis de 30 ans, ancienne gloire, toutes les deux de l'équipe nationale. D'ailleurs, Gianluca Vialli qui a d'autant plus de mérite qu'il a vaincu un cancer particulièrement agressif. Et son histoire émeut et inspire toute l'Italie. Jean-François Pérez.
Leurs chaleureuses accolades font déjà partie de l'histoire de cet Euro. Vialli, Mancini, les jumeaux du but, comme on les surnomme en Italie, sont de nouveau réunis, eux qui faisaient le bonheur de la grande Sampdoria de Gênes dans les années 80. La maladie a failli les séparer. En 2018, Gianluca Vialli annonce dans un livre qu'il souffre d'une tumeur maligne au pancréas. Il disparaît 18 mois pour se soigner. Un parcours incroyablement dur, résumera-t-il, mais au bout, il y a une extraordinaire rémission et son ami qui le rappelle pour gérer à ses côtés une équipe nationale en laquelle Vialli croit beaucoup.
C'est une équipe très forte, compétitive, avec beaucoup d'enthousiasme. On s'amuse beaucoup, on travaille vraiment dans la bonne humeur. Depuis son arrivée, Roberto a créé une super atmosphère dans laquelle je me sens très bien. On va voir jusqu'où on ira, mais j'ai vraiment de bons pressentiments.
Je n'ai plus à me dessiner les sourcils au feutre, sourit Vialli, amaigri mais plus charismatique que jamais. L'Italie joue aussi pour lui, elle n'a plus perdu depuis 33 matchs. Tout un pays attend désormais l'accolade pour le 34e, dimanche soir, après la victoire finale. Londres, Jean-François Pérez, Europe 1.
Et rendez-vous dimanche, bien sûr, pour cette finale Italie-Angleterre en direct sur Europe 1.
C'était le journal d'Isabelle Millet. Isabelle Millet, la très belle voix de votre fin de journée discrète, professionnelle. Bonnes vacances Isabelle.
Merci, bel été à vous.
Et à travers moi, eh bien, c'est toute l'équipe du 18-20 qui vous embrasse très très fort, très chaleureusement. Prenez soin de vous surtout.
Merci Isabelle.
La météo, Marlène, le week-end très sympa pour les uns, moyen pour les autres.
Hein. Moyen et encore, vous êtes sympa. Hein. On pense aux festivaliers, par exemple, du côté de Carré, hein, les vieilles charrues. Entre le coup de vent du début de semaine et puis les pluies qui ont transformé le site en champ de boue, ben, c'est vrai que nos amis bretons n'ont pas été gâtés. Et la pluie qui revient dès cette nuit, c'est une nouvelle perturbation qui arrosera donc la Bretagne, une partie des Pays de la Loire et la Normandie en début de journée. Puis l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Dès la matinée, plus à l'est, évidemment, le ciel assez bien dégagé deviendra de plus en plus chargé, logique, évidemment. En journée, nos pluies en se déplaçant deviendront plus intenses, parfois orageuses. Elles vont gagner la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, puis en soirée, tout le nord-est et le nord de Rhône-Alpes. Après la pluie, Thierry, après la pluie, les éclaircies sur le quart nord-ouest, avec encore quelques ondées. Puis dans les régions du sud, le soleil s'imposera du matin au soir. On notera simplement un peu de grisaille au lever du jour du côté du Béarn. Baisse du thermomètre au nord-ouest après le passage de la pluie. Les régions de l'est verront au contraire une hausse des températures. On prévoit 17 degrés à Deauville, 19 à Lille, 20 à La Rochelle, 21 à Nantes et Paris. Il fera 25 à Pau, 26 à Nice, 27 à Lyon et Mulhouse, 29 du côté de la Corse, 30 à Grenoble et jusqu'à 33 dans le Vaucluse.
Merci beaucoup Marlène. 19h14, tous les soirs de l'été, rendez-vous bien sûr pour une découverte littéraire avec Stéphane Place en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Ce soir, le roman de Jim signé Pierrick Bailly.
Un passage par la case prison pour une magouille un peu minable, une histoire d'amiante, une séparation. À 25 ans, Emmerich s'efforce de reprendre le cours de sa vie et retrouve, à l'occasion d'un concert, Florence. La quarantaine, célibataire, elle attend un enfant. Emmerich ne va pas se contenter d'être là lors de l'accouchement. Le jeune homme va, durant 7 ans, devenir un père par procuration, s'attacher sincèrement à Jim. C'est le prénom de ce petit garçon qu'il élève comme son propre fils dans ce paysage paisible du Haut-Jura, écrin idéal d'un bonheur qui va pourtant voler en éclats lorsque le père biologique refait surface dans cette existence joyeuse, harmonieuse. Libraire chez Mola, Sixtine de Beaufort a adoré ce roman social.
Au début, il n'a pas envie d'être père, mais il va le devenir peu à peu parce que les sentiments sont là. Et au moment où il va se voir presque abandonné par Jim, il baisse les bras parce qu'il se dit « c'est pas ma place, de toute façon, je ne suis pas le père de cet enfant ». Et en fait, ce qui est beau, c'est de voir comment Jim va garder une place immense dans son cœur jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à se retrouver, évidemment. C'est un livre qui explore la question de la paternité d'une manière qui n'est pas forcément vue dans la littérature, qui est une paternité qui n'est pas choisie au départ, qui n'est pas une paternité de sang, mais qui va vraiment devenir une paternité d'amour. Et c'est magnifique, c'est extrêmement sensible. On s'attache énormément à ce duo de Jim et Emery qui est vraiment très, très, très touchant. Un père par procuration, mais fou d'amour pour cet enfant.
L'auteur du roman de Jim, c'est Pierrick Bailly, qui a également écrit Les enfants des autres, la question de la paternité, source donc de questionnement et d'inspiration.
Il y a plusieurs manières d'être père, et d'ailleurs les racines de cette histoire sont très intimes, et moi-même j'ai vécu avec deux figures paternelles, puisque mes parents se sont séparés juste après ma naissance. Ma mère est tout de suite allée avec un autre homme, et ce livre-là c'est aussi une manière pour moi de parler de cette situation de l'enfant de parents divorcés, qui a un père, un beau-père, et c'est même aussi une manière de réfléchir à la blessure qu'a dû vivre mon père au moment où ma mère est partie pour un autre homme. La paternité, comme la maternité, n'est pas figée. Et puis Emmerich n'a pas prévu cette histoire, cette relation avec Jim, et il s'invente père sur le tas, quoi.
Dans ce roman profond, assez bouleversant, le petit Jim, un peu paumé entre ses deux papas, interroge sa mère qui tente de lui expliquer. Si on considère que le père est celui qui met la graine, alors c'est Christophe. Si on considère que le père est celui qui élève l'enfant, alors c'est Emmerich.
Le roman de Jim signé donc Pierrick Bailly, Stéphane Place en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant sur Europe 1, votre club des idées, on va raconter les châteaux de France, mais surtout derrière les vieilles pierres, finalement, notre histoire de France. Vous êtes passionné, je vous attends 39-21, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
19h20, ce soir dans le club des idées, on va parler d'histoire, de patrimoine. Nous allons nous intéresser à ces châteaux qui ont fait la France, des châteaux forts, à ceux de la Renaissance, de la Bourgogne à la Loire. Ils ont traversé les époques, aujourd'hui ils séduisent les touristes, les investisseurs, participent à l'attraction des territoires. Alors zoom sur ce site, sur ces sites d'exception. Un débat en partenariat avec Le Point qui publie ce superbe hors-série, les châteaux qui ont fait la France. Et avec nous notamment Gilles Denis, directeur adjoint de la rédaction du Point. Bonsoir.
Bonsoir, merci de nous recevoir.
Avec nous également Éric Mancio-Rigaud, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Bonsoir.
Bonsoir.
Éric, je dis également que vous êtes auteur d'enquêtes sur la noblesse, notamment la permanence aristocratique et la vie de château aux éditions Perrin. Avec nous également Olivier de Lorgeril, un châtelain engagé, président de la demeure historique. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Cette association de demeures historiques représente les propriétaires et gestionnaires de 3000 monuments historiques. Première question, bien sûr, à vous Gilles Denis, directeur adjoint de la rédaction du Point. Chambord, Carcassonne, Versailles, Saumur, Rambouillet, il y a les connus, les moins connus, les médiévaux, ceux de la Renaissance. Les châteaux sont véritablement les reflets de l'histoire de France, les époques, c'est les reflets de l'histoire de nos régions, finalement.
Comme vous le disiez fort justement, en fait, ces châteaux, ils symbolisent deux choses pour les Français. Il y a cette passion de l'histoire qu'ont les Français depuis très longtemps et la passion de leur patrimoine. Et je pense que le château, par essence, c'est le lieu où ces deux passions se rencontrent. Alors, on a intitulé ce hors-série « Les châteaux qui ont fait la France », mais c'est aussi les châteaux qui font la France.
Qui font la France,
parce que ce sont des châteaux qui continuent d'être vivants. Certains sont des musées, mais donc reçoivent des visiteurs. Et on connaît effectivement l'appétence des Français les grands châteaux.
Exactement.
De la Loire à Versailles.
Ah oui.
Voilà. Et on voit qu'ils se reprécipitent.
Juste une parenthèse, justement, on a le sentiment depuis quelques années, c'est assez récent que les Français se passionnent pour ces châteaux, reviennent visiter ces vieilles pierres finalement qui étaient un peu délaissées dans le temps.
Alors je pense que c'est la conjonction de plusieurs choses, évidemment. Il y a cette appétence pour l'histoire qui est de plus en plus marquée, des émissions qui sont consacrées à l'histoire. Enfin, Alain Decaux, il y a bien longtemps, avait ouvert la voie. Il y a aussi ce que j'appelle un peu le syndrome Puy du Fou. Cette appétence des Français pour aller vers des châteaux qui vivent, des endroits historiques qui vivent. Donc c'est ça. Aujourd'hui, ce ne sont pas que des musées, ce sont des maisons, ce sont encore beaucoup et très souvent des lieux de pouvoir. On parlait de Versailles, qui est demeuré un lieu de pouvoir malgré tout, qui est un lieu du pouvoir républicain. Et puis, c'est aussi de plus en plus des lieux qui sont ouverts au public et où, pour quelques heures, quelques jours, on peut aussi avoir la joie d'aller vivre la vie de château.
Exactement. voilà. Olivier de Lorgéril, châtelain engagé, président de la demeure historique, je le disais. La demeure historique, c'est quoi? C'est 6 000 châtelains autour de vous, racontez-moi.
Alors, c'est surtout une grande association nationale qui a été...
Oui, pardonnez-moi. Il y a combien de châteaux, c'est ça? Enfin, il y a combien de châtelains et combien de châteaux en France aujourd'hui? On arrive à recenser?
Alors écoutez, on a recensé des arrêtés de protection au nombre de 45 000 à peu près.
Ah oui.
Mais on peut dire qu'il y a environ 10 000 châteaux, manoirs et maisons protégées ou susceptibles de l'être qui rayonnent dans tout le territoire national. Et effectivement,
d'accord,
la demeure historique en réunit à peu près 3 000, qui ont la spécificité donc d'être des propriétaires, gestionnaires, parce qu'il faut savoir maintenant gérer pour s'occuper d'un monument historique à travers toute la France.
D'accord. Je me tourne maintenant, il fallait bien quand même un professeur d'histoire contemporaine, et Éric Mansurego. Ils ont changé ces châteaux d'utilité durant les époques.
Ils ont beaucoup changé. Les châteaux, c'est vraiment le patrimoine qui s'inscrit, comme d'ailleurs les églises aussi, mais peut-être encore plus, dans un patrimoine très long, puisque l'émergence des châteaux en France est inséparable de la féodalité qui réorganise le territoire après l'effondrement carolingien autour de la motte fortifiée et non plus autour de la cité comme dans la société antique.
Ouais.
Ces châteaux vont donc avoir une vocation militaire défensive.
Donc ça, ce sont les fameux châteaux forts qu'on a tous visités gamins.
Bien sûr, ces châteaux médiévaux qui sont dans l'imaginaire évidemment très très important. La médiévalité est un élément d'ailleurs très important du tourisme des châteaux. Ces châteaux donc vont avoir une dimension militaire très importante pendant tout le Moyen-Âge. Et au début de l'époque moderne, il y a d'une part l'invention d'armes défensives qui vont, en particulier le boulet de fonte, qui vont fragiliser les châteaux forts. Et puis surtout, il y a l'autorité du pouvoir central qui se renforce, l'autorité royale, qui va évidemment voir dans ces châteaux une menace, puisque l'État fort veut avoir le monopole de la violence. Et donc ces châteaux perdent leur utilité, sauf quand ils peuvent servir sur la défense des frontières, mais ils vont être remplacés par les places fortes de Vauban, et le pouvoir royal, Richelieu en tête, va se méfier de ces châteaux privés, de ces lieux de militaires qui peuvent être dangereux pour l'autorité royale. Et le grand démolisseur de châteaux féodaux va être Richelieu, qui va, durant la décennie 1630, va démanteler un nombre de châteaux très, très important.
Et Éric Mansurego, juste un point pour que la parole circule et puisse circuler au mieux. Ce qu'il faut bien dire, c'est que on a tendance à se dire, voilà, une fois que la monarchie est passée, il n'y a plus de châteaux, mais que nenni, la fin de la monarchie ne signifiera pas la fin des châteaux, bien au contraire.
Pas du tout, au contraire, le 19e siècle, paradoxalement, est l'âge d'or des châteaux français. C'est l'un des paradoxes de la Révolution française qui à la fois tue la seigneurie comme entité politique et ouvre l'âge d'or des châteaux français, parce que les familles nobles veulent renouer avec la chaîne des temps, se réinvestissent les campagnes, ils sont beaucoup plus présentes qu'au XVIIIe siècle. Et le château acquiert vraiment sa fonction encore beaucoup plus qu'au XVIIIe siècle de lieu de réminiscence. Elle garde le souvenir de la mémoire d'un pouvoir seigneurial, et en même temps, elle est le lieu où les familles veulent... C'est le lieu de réminiscence, garde les souvenirs qui maintiennent la mémoire de l'enchaînement généalogique. Et il y a un réinvestissement des familles traditionnellement propriétaire de châteaux, c'est-à-dire la noblesse, dans les campagnes, qui est très important au XIXe siècle. Et puis, c'est l'époque où les moyens de transport se développent, où les forêts se sont reconstituées, et c'est le grand moment de la chasse à courre en France. Il y a une période extrêmement heureuse des châteaux dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui va se fracasser avec la Première Guerre mondiale.
Allez, on a planté le décor, on va dire, les fondations. On se retrouve dans un instant pour continuer et pour continuer à visiter ces châteaux qui font la France. À tout de suite, 39-21 si vous voulez intervenir.
Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Voilà, et à 19h30, on poursuit notre Club des idées ce soir en partenariat avec ce hors-série du Point passionnant. Les châteaux qui ont fait la France. Et c'est vrai que derrière ces vieilles pierres, il y a notre histoire de France. Avec nous, je vous le disais, Éric Mention-Rigaud, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Gilles Denis, directeur adjoint de la rédaction du Point. Olivier de Lorgéril, un châtelain engagé, président de la demeure historique. Justement, Olivier de Lorgéril, cette passion des Français pour les châteaux, comment vous l'expliquez? Ça vient d'où et pourquoi en ce moment?
Alors, comme le disait le professeur Mention-Rigaud, il y a les choses de passion, il y a des lieux de mémoire. Vous parliez au début de votre propos de l'histoire, de la passion d'un regain pour la passion de l'histoire, pour le patrimoine. J'ajouterais, moi, maintenant, une passion pour le territoire, pour la ruralité. Et la terrible crise que nous avons connue, sanitaire, et que nous connaissons malheureusement encore, eh bien fait que les Français veulent se réapproprier souvent des monuments de proximité. Et ils se rendent compte qu'effectivement, ce sont des lieux de conservation, de mémoire, de dynamisation, d'économie, des lieux socio-économiques qu'ils redécouvrent. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous me présentez Châtelain, c'est tout à fait sympathique, mais c'est malheureusement beaucoup moins la réalité. Que d'être un entrepreneur du patrimoine, ce que nous sommes en un certain nombre, sans oublier que, et ça c'est un point très important à souligner, que les monuments historiques font de la France une destination touristique absolument remarquable. Ouais, ouais. Et qu'un monument soit grand, petit, féodal, du 18e, du 19e, ouvert au public ou non, tous ces endroits, tous ces lieux et leurs abords contribuent à ce merveilleux paysage qui ravit non seulement les Français, on l'a vu l'année dernière, et encore au début de cette année, mais également tous les étrangers, nombre d'étrangers. Et ce qui fait que la France est une destination touristique et a une économie touristique de premier ordre.
Gilles Denis, directeur adjoint de la rédaction du Point, vous publiez ce hors-série. D'ailleurs, il y a 40 adresses où séjourner. Est-ce que finalement, les Français ont envie, on l'a dit, d'un tourisme un peu nouveau, avec du contenu on ne va plus à l'hôtel, mais on cherche une chambre d'hôtel un peu atypique, un peu authentique.
C'est exactement ce mouvement qu'on voit et qui a été effectivement accentué par la crise que nous avons vécue et que nous vivons encore, cet appétit pour le local et cet appétit pour avoir du sens. Et effectivement, le château combine les deux. Et en plus, le château, cette double fonction aujourd'hui pour celui qui n'est pas châtelain, c'est qu'on peut aller le visiter, mais on peut de plus en plus aller y vivre quelques heures. Et là, on voit que choisir d'aller séjourner dans un château, c'est pas choisir d'aller séjourner à l'hôtel. On y va bien sûr pour le décor, mais on y va aussi pour s'inscrire pour quelques heures dans la vie de ceux qui ont fait ce château. Je donne deux exemples récents de deux châteaux qui viennent de s'ouvrir à l'hôtellerie. C'est le domaine de Primard qui est dans l'Eure et qui est un charmant château directoire, mais qui a été aussi pendant très longtemps la résidence de campagne de Catherine Deneuve. Donc non seulement on entre dans l'histoire, mais on entre aussi, si j'ose dire par effraction, dans la vie d'une icône française. Et deuxième exemple, c'est le château de Versailles, dont une annexe vient d'être transformée en hôtel, l'hôtel Désérel, qui est donc inscrit dans un hôtel particulier dépendant du château et qui est l'hôtel du Grand Contrôle. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut s'y ruiner dans un endroit où était installé donc le Grand Contrôle. C'était le ministère des Finances de la Royauté. C'est là où Necker et Turgot entendaient de résoudre les grands déficits royaux. Et on peut donc s'y ruiner avec appétit, puisque c'est Ducasse qui est aux manettes des cuisines. Donc il y a quelque chose d'extrêmement vivant quand on choisit, par exemple, d'aller séjourner en château.
39-21, Laure nous a contacté. Bonsoir, Laure.
Oui, bonsoir.
Vous êtes du Mans, c'est bien cela?
Oui, tout à fait.
Responsable de ressources humaines. Vous êtes une fan de château?
Ah oui, effectivement. Et puis en plus, on est tout proche de la Touraine. Donc c'est une région que, effectivement, j'affectionne particulièrement. Mmh. Et moi, je trouve que les châteaux sont le reflet de notre histoire. Ils témoignent aussi de notre savoir-faire. On a des châteaux magnifiques. Si on prend, par exemple, le château de Blois, il y a un escalier très connu et qui est vraiment... Voilà, ce sont des bâtiments d'exception. Et beaucoup de pays nous envient parce qu'on a beaucoup, beaucoup de châteaux, des châteaux différents. Je crois qu'il y en a plus de 40 000 en France, ce qui est énorme. Et c'est toujours un vrai plaisir d'aller les visiter.
Ouais, parfait.
Pour rebondir sur ce que disait un intervenant, là, effectivement, c'est toujours un vrai conte de fées. Il y a des mises en scène.
C'est ça, c'est une manière de revisiter notre histoire et de s'imaginer.
Et de s'approprier un petit peu les lieux. Ouais. Oui, tout à fait.
Parfait. Merci à vous, Laure, de nous avoir contactés au 39-21. Monsieur le professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, Éric Mancieu-Rego. Ce qui est assez intéressant, finalement, c'est qu'on parlait tout à l'heure de l'histoire de ces châteaux, de l'après-monarchie. La Ve République renforcera finalement ses habitudes avec les châteaux. Nos présidents adorent aller à Versailles et inviter d'ailleurs des chefs d'État étrangers à Versailles. C'est aussi la splendeur de la France, cette histoire.
Oui, c'est-à-dire qu'un château, c'est évidemment une histoire nationale et c'est ce qui intéresse les visiteurs puisqu'on n'enseigne plus beaucoup l'histoire de France à l'école. Mmh. Mais en tout cas, ils sont, je pense, très heureux de la redécouvrir. Un château, c'est toujours le croisement de l'histoire d'une famille, l'histoire de quelques personnages avec l'histoire nationale. Ouais. Mais le château, c'est aussi la vitrine brillante de l'habitat français et c'est aussi tout un art de vivre, un art de la table en particulier que les propriétaires privés d'ailleurs mettent bien en spectacle avec la mode depuis une vingtaine d'années de montrer les cuisines, de montrer les lingeries, de montrer les chambres et surtout de dresser des tables absolument magnifiques avec parfois des partenariats avec des cristalleries ou des porcelainiers. Donc ça, c'est quelque chose qui éblouit le visiteur et qui lui fait qu'il transporte dans le rêve. Je voudrais aussi insister sur quelque chose qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, ce sont les jardins. Parce qu'il y a eu en France depuis 30 ans un effort énorme pour restaurer, recréer les écrins des châteaux. Et c'est quelque chose qui attire beaucoup les visiteurs. Bien sûr. un attrait croissant pour les jardins, ce goût pour l'écologie, ce goût pour la nature. Et comme nous vivons une période où on est très enfermé chacun chez soi, on est très très heureux, on découvre avec encore plus de bonheur les fleurs et la végétation. Or, il y a eu des choses très importantes. Il y a un bel exemple d'ailleurs avec la Bourbancée et Olivier de Lorgeril qui est là. Je l'évoque parce que je l'ai visité il y a peu de temps avec beaucoup de plaisir. Il y a un magnifique potager qui a été créé ces dernières années et qui donne devant le château une brassée de couleurs, de diversité. Mais il y a un conservatoire de la tomate qui a été créé par le prince jardinier. Il y a des roseraies avec des collections de roses anciennes qui ont été créées. Donc, il y a un patrimoine de végétal aussi et botanique qui est très important et qui, je crois, suscite aussi un intérêt très important des visiteurs.
Allez, on continue à parler et à se promener en ce début de vacances pour certains, en ce début de week-end pour d'autres. Les châteaux qui ont fait la France avec le point hors série. On sera dans un instant à Carcassonne. On sera avec Christophe Varenne. Il est administrateur au Centre des Monuments Nationaux en charge des remparts et du château de Carcassonne. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et on parle ce soir de ce hors-série, les châteaux qui ont fait la France, dont Europe 1 est partenaire ce soir. On va aller tout de suite à Carcassonne retrouver Christophe Varenne. Bonsoir Christophe.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Vous êtes administrateur au Centre des Monuments Nationaux en charge des remparts du château de Carcassonne. Carcassonne d'ailleurs, bien sûr, où est arrivé cet après-midi le Tour de France.
Tout à fait.
Vous constatez, vous aussi, cet attrait particulier, la cité de Carcassonne, c'est combien de visiteurs par an ?
Alors, sur une année normale, une année comme bien celle sûr. De 2019, c'est hors de COVID. L'ordre de 1,5 million de visiteurs qui viennent annuellement sur la cité. Et malheureusement, l'année dernière, donc, on a noté une diminution de l'ordre de 50% de notre fréquentation.
Bien sûr. Alors, racontez-nous un peu le site pour ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs, on l'a vu sur les images du Tour de France, les coureurs sont passés vraiment au pied du château.
Carcassonne, effectivement, c'est un lieu qui est unique, unique en son genre, deux couronnes de remparts avec un château en son centre. C'est aussi une ville, c'est une ville qui est toujours habitée avec ses habitants. Ses commerces. Oui. Et donc, ça donne l'opportunité aux visiteurs de se retremper en fait, dans une ambiance médiévale.
Oui. C'est quoi ? C'est 3 km de rempart, c'est ça ? Deux enceintes fortifiées, une qui date du 4e siècle et l'autre du 13e siècle. 4 portes, 52 tours.
Voilà, tout à fait. 4 portes, 52 tours, 2 couronnes. Chaque couronne de rempart fait environ 1500 mètres de long.
Oui.
Et l'ensemble du domaine fait 86 000 m².
Ouais. C'est vraiment, en effet, un moyen de se replonger dans notre histoire, finalement.
Tout à fait, c'est un moyen de se replonger. Et je rejoins complètement ce qu'ont dit vos invités précédents, ouais, sur la recherche du contenu et du sens, mmh, que les visiteurs recherchent.
Vous le sentez vraiment ? C'est-à-dire que vraiment, il y a cette quête-là assez récente ?
Tout à fait, on l'a bien senti, on l'a vraiment senti encore davantage l'année dernière. Et c'est la raison pour laquelle cette année, on a mis en place un programme d'animation avec l'ensemble des partenaires, hein, que ce soit la ville, l'office du tourisme. Il y a énormément d'animations qui sont mises en place au sein de la cité, mais également dans la ville de Carcassonne.
D'accord. Merci à vous, Christophe Varenne. Je rappelle que vous êtes administrateur au Centre des Monuments Nationaux en charge des remparts et du château de Carcassonne. Si vous allez dans le coin cet été, bien sûr, allez visiter cette superbe ville. Grand merci à vous, Christophe.
On attend les visiteurs de 10h jusqu'à minuit, puisqu'on a même un parcours en soirée qui est immersif.
Ah, parfait, même le soir.
Et qui permet aux gens de se replonger dans l'histoire de Carcassonne, avec également en journée un parc médiéval avec une quinzaine de reconstituteurs en permanence.
Parfait, merci à vous, Christophe Varenne. Gilles Denis, directeur adjoint de la rédaction du Point, qui publiait donc cette hors-série, hein, Les châteaux qui ont fait la France. On parle toujours des grands châteaux, ceux qu'on connaît, voilà, à Versailles. Donnez-nous quelques petits châteaux qui ont fait cette histoire française, pas forcément très connus.
Alors, par exemple, on s'est intéressé à un château qui est le château de Goulaine. Ouais. Le château de Goulaine est en Loire-Atlantique et c'est une histoire magnifique puisqu'il y a 50 générations de Goulaines qui ont vécu et qui continuent de vivre, continuent de vivre dans ce château. Et le marquis de Goulaine que nous avons interviewé a cette très jolie phrase, il dit « On croit que c'est une maison lourde à porter, mais c'est elle qui nous porte. Tous ces siècles nous enseignent la modestie. Ouais. » Et ce que je trouve beau, c'est que finalement, toutes ces pierres, qu'elles soient grandes ou plus petites, en fait, ce ne sont pas que des pierres. En fait, un château, c'est quoi ? C'est pour ça que je pense que les Français sont fascinés. C'est un concentré du goût et de l'esprit français. C'est quelque chose d'expression finalement sublimée par des pierres, des hommes, des femmes, des jardins, de l'esprit français. Et c'est ça, je pense, cette fascination est là.
Éric Mancio-Rigaud, professeur d'histoire à la Sorbonne. Là encore, est-ce que vous avez des petits châteaux moins connus que ceux qui sont très très fréquentés, qui sont l'âme de l'histoire française, enfin une partie de l'histoire française, et qui sont très peu connus?
Je suis de l'Est de la France, donc j'ai passé mon enfance à Nancy. Ouais. Et il y a deux châteaux qui ont un peu bercé mon enfance, qui est le château d'Arouet et surtout le château de Fléville, qui est un véritable château palimpseste, enfin un château comme je les aime, c'est-à-dire qui retrace 1000 ans d'histoire, puisque vous avez un donjon médiéval, un logis Renaissance, des transformations au XVIIIe et au XIXe siècle. Et vous avez là vraiment, à travers un monument, toute une histoire régionale, une histoire de l'habitat français, et puis une histoire de l'évolution du château, qui, de sa vocation militaire, devient un château de plaisance, qui va s'ouvrir à la lumière, faire entrer la beauté des jardins par l'ouverture des fenêtres, d'abord des fenêtres à meneaux, puis ensuite des portes-fenêtres, et puis tout un art décoratif qui signale le développement, l'essor, le raffinement du luxe français au XVIIe ou XVIIIe siècle. Ouais. Mais je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que ces châteaux qui abritent comme Goulaine les strates de multiples générations sont aujourd'hui malheureusement les châteaux les plus fragilisés. Ouais. Nous avons eu ces dernières années, je ne cesse d'alerter depuis de nombreuses années la demeure historique sur ce point, de multiples châteaux qui ont fait route commune avec une famille pendant plusieurs siècles et qui là volent en éclats. Nous en avons eu un exemple terrible il y a quelques années avec le château d'Ampierre, Pierre, qui a fait disparaître l'une des dernières et peut-être la dernière bibliothèque privée du XVIIIe siècle totalement intacte. Et nous allons assister prochainement à la dispersion du mobilier du château de Verteuil, qui est dans la même famille depuis 1000 ans. Des familles comme les La Rochefoucauld à Verteuil ou les Rohan à Josselin sont des familles qui ont la même adresse depuis 1000 ans, ce qui est quand même très rare. Et vous avez le contenu de ces châteaux qui sont de véritables ensembles historiques, avec des pièces d'inégale valeur sur le marché marché de l'art, mais qui sont qui valent plus que la somme de leurs composantes par la somme d'histoires, de réminiscences qu'elles abritent. Et c'est ça le vrai danger en France. C'est pas la disparition des châteaux. Le bâti est très protégé en France par de multiples lois, et le bâti, ça se voit. En revanche, ce sont les intérieurs qui sont peu protégés, et en particulier ces familles qui, certaines se battent. Il y en a beaucoup qui se battent pour tenir, précisément parce que ce château est le château est le lieu du regard rétrospectif. C'est le lieu où peut le mieux se maintenir tous les objets qui maintiennent la mémoire de l'enchaînement généalogique, en particulier les archives et les grands tableaux, et toute une atmosphère et un art de vivre qui permet la continuité du monument. Mais vous avez une multitude de châteaux maintenant qui sont en train de sortir et qui sont vendus, revendus, et qui perdent véritablement leur âme.
Dites-moi. On va laisser la parole quand même à Olivier de Lorgerie, c'est important, qui est le président de la demeure historique. Olivier, dites-moi, vous êtes propriétaire d'un château vous-même.
Tout à fait, d'un château de famille depuis sa construction au XVIe siècle. Donc effectivement, je souscris tout à fait à ce que dit le professeur Mansuyan Hugo.
C'est combien de visiteurs par an, votre château ?
Alors, en temps normal, c'est aux alentours de 140-150 000 visiteurs par an. Et là, bien évidemment, avec la crise sanitaire, c'est beaucoup moins. Et effectivement, ça pose beaucoup de problèmes. Et l'actualité récente démontre qu'effectivement, ces propriétaires, gestionnaires, sont très impactés, très fragilisés. Vous avez parlé effectivement de Verteuil, on pourrait parler de Robien. Enfin, il y a un certain nombre de châteaux qui sont malheureusement vendus. Heureusement, il faut regarder la moitié du verre qui est pleine, c'est qu'ils sont parfois repris. Et la demeure historique s'attache à véritablement aider l'ensemble de propriétaires, qu'ils soient des héritiers d'une part, ou qu'ils soient
comment vous faites, c'est intéressant, pardonnez-moi, je vais être, mais vous savez quoi, vous êtes un syndic de châtelains, comment vous travaillez?
Syndic, nous sommes une association reconnue d'utilité publique qui accompagne dans la difficulté un peu de la complexité de la vie d'aujourd'hui des propriétaires de monuments historiques, et donc nous avons une équipe d'experts qui recueille les problématiques de ces propriétaires gestionnaires et qui essaye, auprès des pouvoirs publics, qui sont somme toute très à l'écoute, de trouver des solutions pour faire en sorte que non seulement ces maisons perdurent dans le temps, mais que leurs activités également perdurent dans le temps. N'oublions pas que ces maisons autrefois animaient les territoires, et on s'aperçoit aujourd'hui que ces nouveaux entrepreneurs ou ceux qui maintiennent ce patrimoine, font tout ce qu'ils peuvent pour continuer à animer. Et vous avez parlé d'un certain nombre de choses, éblouir, je notais, mettre en scène, mais c'est également vivre une expérience. N'oublions pas que toutes ces personnes qui sont très dynamiques au sein de leurs monuments, pour essayer de les maintenir et de les faire vivre, regorgent, d'activités nouvelles, modernes, amusantes, dynamiques, historiques, culturel. Vous parliez tout à l'heure de réceptif.
Olivier,
vous avez les magnifiques relais châteaux, etc.
C'est entendu.
Juste pour vous dire, vous avez par exemple le château d'un de nos audacieux du patrimoine, le château de Saint-Martin, où vous dormez dans des bulles à la Belle Étoile. Ce sont des initiatives, des hébergements immersifs tout à fait amusants.
Merci à vous, Olivier de Lorgerie. Gilles Denis, pour le mot de la fin pour vous rapidement. Donc c'est vraiment ce guide, c'est un guide touristique finalement, ce que vous avez fait sur hors série, les châteaux qui ont fait la France. C'est des bonnes adresses, c'est des bons restaurants, c'est une façon nouvelle de découvrir ces châteaux qui ont fait notre histoire.
L'idée était là. L'idée était de montrer que ça fait l'histoire.
C'est bien réussi.
Et ça fait l'histoire et ça fait la vie de la France. Ce sont des lieux qui sont vivants. Tous les invités l'ont bien dit, ce sont des lieux qui vivent, qui respirent, que les gens aiment partager, où les gens aiment aller, parce que justement, on va à la rencontre de l'histoire. Et cette histoire, elle n'est pas morte, elle est vivante. Et ce qu'on a voulu montrer dans ce hors-série.
C'est réussi. Gilles Denis, Éric Mansion-Rigo, Olivier de Lorgerie, merci à vous trois. Bonne soirée.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Allez, passons maintenant au jour où. Tous les soirs, vous savez, on s'arrête sur un événement du passé, sur une date, sur une histoire. Eh bien, dans un instant, on va retrouver Julien Bugier et Aude Leroy. Et on va parler des ceintures de sécurité.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
19h52, vous êtes peut-être sur la route des vacances, des grandes vacances, sur la route de votre week-end. Justement, le jour où, eh bien ce soir, Julien Bugier et Aude Leroy reviennent sur le jour où la ceinture de sécurité en voiture est devenue obligatoire.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Bien ce week-end.
Europe 1.
Bonsoir Aude Leroy.
Bonsoir.
Vous nous avez rejoint car aujourd'hui on va parler avec vous de sécurité routière à l'occasion de cette journée nationale de la sécurité routière. Une invention née dans l'aéronautique a vraiment bouleversé et changé nos habitudes dans la conduite de nos voitures. C'est le port de la ceinture de sécurité qui est devenu obligatoire à l'avant des véhicules. C'était en juillet 73, il y a 48 ans, en juin 73, un mois avant, les propos des Français sur la ceinture de sécurité, c'était tout simplement hallucinant.
Oui, effectivement. D'ailleurs, je vous propose de les écouter immédiatement.
Moi, je trouve les gens qui sont avec la ceinture, ils peuvent se tout permettre. Là, hein. Maintenant, j'ai la ceinture, maintenant, je peux doubler, maintenant, je peux tout faire.
C'est pas pratique pour conduire. On peut pas faire les gestes qu'on veut en ville, n'importe quoi, même sur la route.
Qu'on fiche la paix aux gens. Parce que les voitures de gendarmerie ont des ceintures, ils les mettent pas.
Alors voilà, à l'époque, les chiffres de la mortalité routière sont monstrueux. 1972, c'est une hécatombe sur les routes, la plus forte mortalité jamais connu en France. 18 034 décès et plus de 385 000 blessés. C'est 5 fois plus qu'aujourd'hui. Alors à l'époque, politiquement, c'est intenable. Du coup, le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas décide d'imposer cette invention d'un ingénieur de chez Volvo, une invention qui effectivement au départ était prévue pour les avions. C'est cette fameuse ceinture de sécurité. Et c'est Jacques Baumel, alors secrétaire d'État auprès du Premier ministre, qui l'annonce toujours en 1972.
Il est certain qu'en dépit d'un scepticisme de nombreux, par peur du ridicule, par peur du qu'en dira-t-on, la ceinture de sécurité a déjà et sauvera des milliers de vies humaines. Mais il faut, par persuasion et par campagne d'opinion, habituer les Français et les Françaises à l'utiliser en toutes circonstances.
Oui, parce qu'il faut le préciser, hein, le 1er juillet 1973, en ce premier jour de grandes vacances d'été, eh bien la ceinture de sécurité devient obligatoire. Mais attention, uniquement pour les passagers avant et hors agglomération.
Ah oui, et sur les routes de campagne et les autoroutes donc. Et qu'en est-il des enfants à l'arrière ?
Ah bah alors là, c'est très fort, Julien. Les enfants restent libres de leur mouvement sur la banquette arrière. Rappelez-vous, on se baladait de gauche à droite, de droite à gauche, on se mettait debout, on bougeait dans tous les sens, on s'allongeait même hein, parfois pour dormir. Et ça, ça a duré jusqu'en 1990. Mais à l'époque, en 1973, il n'y avait qu'un seul avertissement et il venait de la Croix-Rouge.
Je voudrais qu'on fasse une croisade acharnée pour que jamais un enfant ne soit assis devant une voiture. Un enfant doit être derrière, il doit être attaché ou pas attaché, mieux est attaché, mais enfin, c'est difficile quelquefois d'attacher un enfant. Mais jamais on ne doit poser un enfant sur les genoux de la personne qui est devant.
Eh oui, c'était pas... c'était différent.
C'était à l'époque, on avait le droit de fumer dans les voitures aussi.
Oh,
moi, je me souviens,
si,
les départs en
ouverte.
Vacances.
Oui, voilà. La pipe et tout. Alors, la ceinture de sécurité, en quelques semaines, cet été-là, est finalement adoptée. Hein. 80% des usagers prennent l'habitude de la mettre. Et du coup, bah, le résultat est radical. En un an, le nombre de tués chute de 3500 personnes. Alors à l'époque, heureusement, il y a eu des visionnaires, hein, comme le médecin à l'époque légiste Claude Gaux, qui déjà à l'époque, parce qu'il continue aujourd'hui, prône sécurité et baisse de vitesse.
On sait que c'est une question d'années, il faudra peut-être 2 ans, 5 ans, des bilans d'accidents qui iront de 16 000 à 20 000, 30 000, pour qu'on finisse par admettre que si on va doucement et si on est ceinturé, il n'y aura une mortalité automobile qui sera probablement 4 fois plus faible ou 5 fois plus faible que ce qu'elle est actuellement.
Et voilà, bingo, 48 ans plus tard, eh bien, les chiffres des tués et des blessés sur les routes en France ont été effectivement divisés par 5 en 48 ans. Et pourtant, Julien, pourtant, il faut le dire, aujourd'hui, en 2020, un Français sur 4 ne boucle toujours pas sa ceinture de sécurité
c'est
à
vrai.
Bord.
Et c'est un autre fléau qui nous guette aussi, le téléphone portable, dont l'usage crée, paraît-il, de nombreux accidents sur les routes. Merci Aude pour ses archives.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Alors, le programme de votre soirée à 22h, Émilie Mazoyer depuis le Festival des Vieilles Charrues. Mais juste avant, Europe 1 Football Club. Salut Lionel Rousseau.
Salut Thierry.
Au programme ce soir.
Programme foot encore. Bien sûr. Évidemment, on se prépare à la finale de dimanche. Oh là même là. Sur un petit peu de Tour de France. On sera avec Richard Viron et Axel May sur les routes du Tour. Avec Cavendish qui a encore remporté une étape aujourd'hui et égalé le record de Merckx. Donc, vous voyez, il y aura du vélo, mais surtout beaucoup de football. Entretien avec Alain Roche, ancien international du Paris Saint-Germain, aujourd'hui directeur sportif des Girondins de Bordeaux, et thématique autour notamment de la succession possible de Deschamps. Alors après la Coupe du Monde au Qatar, hein, puisque vous le savez, il a été non pas prolongé, mais confirmé au moins jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar. Et après, peut-être Zinedine Zidane qui se tient prêt. Est-il vraiment prêt à patienter pour les Bleus? C'est la question que je poserai à nos experts ce soir, Marc Libra, Philippe Doucet, Aline Rira et Javier Prieto Santos.
À tout à l'heure, à tout Lionel. À l'heure. Merci, merci à vous. Merci à Naïma Benchemann, Victor Chabert, Christophe Carré et Christophe Pierrot. Bon week-end à vous. L'info dans un instant avec Élise Dangean. Bonne route si c'est le cas. Soyez prudents. À lundi.